Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Comment réussir l'éducation des enfants dans une famille monoparentale? Vous savez, certaines personnes vivent seules et sont contraintes de faire de leur mieux pour assurer l'éducation des enfants. Une tâche qui n'est pas du tout facile, surtout lorsque les moyens financiers font défaut. Alors, que doit faire un homme ou une femme qui vit seule avec ses enfants? Comment réussir leur éducation? Paul Moulin est éducateur à la vie. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors Paul, d'abord, c'est qu'est-ce qu'on entend par famille monoparentale?
Merci beaucoup. Je dis une famille monoparentale est celle qui est constituée d'un homme ou d'une femme qui vit seule avec ses enfants.
Voilà, un homme, oui.
Un père qui est divorcé et garde ses enfants, ou encore une femme divorcée et garde ses enfants, ou un veuf ou une veuve garde qui vit avec ses enfants, ou une femme célibataire ou un homme célibataire qui vit avec ses enfants, constitue là une famille monoparentale.
Voilà, donc là, ça peut être, vous avez dit, un veuf, une femme célibataire ou un homme qui vit avec ses enfants ou soit divorcé. Alors, dans ces contextes-là, comment réussir l'éducation des enfants? Parce qu'on dit souvent, pour éduquer les enfants, il faut la présence du papa et de la maman.
Merci beaucoup. Le rôle des parents est certainement mettre les enfants au monde et leur assurer protection, survie, éducation, formation jusqu'à leur émancipation. Cela va de soi. Quand on est à deux, on peut conjuguer des efforts pour assurer cette protection, cette formation de l'enfant. Mais quand un des parents n'est pas là, il y a un petit déséquilibre qui se constate, surtout en ce qui concerne la sécurité, parce que elle accompagne également la gestion de l'autorité parentale. Je sais que les moyens financiers peuvent justifier, peuvent renforcer l'ampleur du problème, mais le grand problème ici, même si on a ces moyens, même si on a un travail assuré, et même si on a un héritage qui garantit les moyens financiers, les moyens de survie, mais c'est surtout la gestion de l'autorité parentale et l'accompagnement des enfants, comme leur surveillance pendant l'absence du parent qu'il faut considérer comme un problème majeur dans cette gestion de l'éducation des enfants.
Voilà, donc il y a un problème de l'autorité parentale. Mais généralement, par exemple, pour le cas d'une fille qui est tombée grosse et qui a eu une fille célibataire qui a eu des enfants après, généralement, la tendance, c'est de confier l'éducation de ses enfants à ses parents.
Oui, mais ça, c'est... Dans ce cas-là, l'enfant ne grandit pas dans une famille monoparentale. Il y a un père, il y a une mère et ils peuvent ensemble réfléchir pour aider cet enfant-là à grandir normalement. Mais si la fille tombée enceinte garde son enfant, veut les laisser chez elle toute seule, c'est alors que je parle de l'autorité parentale et de la sécurité qui en pâtit. Parce que l'absence de papa va pousser maman à prendre parfois des attitudes qui ne sont pas favorable à l'épanouissement de l'enfant. Quand on élève un enfant particulier ou encore avec un excès d'autorité, vous savez, il y a des conséquences regrettables parfois dans la conduite de l'enfant lui-même.
Voilà. Nous parlons de la réussite de l'éducation des enfants dans une famille monoparentale. Alors, Paul Moulin, je disais qu'une jeune fille qui tombe enceinte et qui confie l'éducation de ses enfants à ses propres parents. Et or, nous savons que les grands-parents, ils sont trop larges. Les grands-parents, ils essayent de choyer l'enfant, d'orloter. À ce moment-là, on peut dire que cet enfant ne sera pas bien éduqué.
Oui, mais je reviens là-dessus. cet enfant, s'il tombe entre les mains d'un pépé et d'une mémée qui gardent encore leur énergie pour bien éduquer l'enfant, peuvent aussi réussir parce que pépé peut être beaucoup plus large, alors que mémée est assez sévère, mais l'enfant grandit là dans une famille qui n'est pas monoparentale. Parce que la mère de cet enfant semble-t-il être exclue, plus ou moins, dans l'éducation de l'enfant. Mais, quand nous considérons la famille monoparentale proprement dite, nous voulons dire que la fille tombée enceinte, peut-être pour telle ou telle raison, était obligée d'aller s'installer pour élever seule son enfant ou ses enfants qu'elle a eu, à ce moment-là, nous parlons de la famille monoparentale. Et là, elle doit jouer le rôle de père ou de la mère. Alors, parfois c'est délicat, parce qu'au même moment que l'enfant se comporte de telle ou telle manière, il faudra que le parent présente l'attitude qui est favorable à l'éducation. Mais alors, comprenez qu'il faudra, quand il y a une mère et un père, quand l'un tend un peu trop la ficelle, que l'autre dit « Non, tu as exagéré, arrête, c'est pas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait là, mais je ne pouvais pas le faire devant l'enfant. Je te recommanderais d'agir comme ceci ou comme cela plus tard pour que nous puissions réussir le rêve d'ensemble de cette éducation de l'enfant. » Mais alors, quand on est dans une famille monoparentale, c'est un des parents seuls qui décide de l'orientation éducationnelle de l'enfant. Alors, vous voyez, s'il est excellent, alors tout va très bien. Mais si ce parent est médiocre, rassurez-vous que on n'a pas beaucoup de chances de réussir l'éducation de l'enfant.
Voilà. Alors,
dans les recommandations,
oui.
Dans les recommandations, il faudra que le parent qui s'occupe seul de ses enfants puisse prendre du recul de temps en temps pour se réaliser qu'il reste sur une bonne voie en matière d'éducation de ses enfants. Un conseil est nécessaire. Bien qu'on ne vit pas dans la même maison avec son mari ou son épouse, mais si un psychologue, un ami assez compétent, un couple qui élève bien ses enfants peut aussi vous aider à analyser votre façon de faire par rapport à l'éducation de vos enfants, vous pouvez aussi facilement vous en sortir.
Bien, comment réussir l'éducation des enfants dans une famille monoparentale? Paul Mboula, éducateur à la vie, est notre invité. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 081-890-6394.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Ilunga nous appelle de Kolwezi dans la province du Katanga. Ilunga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Ilunga.
Et j'ai une petite préoccupation de faire notre invité. Je ne savais pas, parmi la femme et le mari, qui a une bonne éducation. Et l'éducation vient de quelle vient des parents ou vient ça vient de la maman.
Merci. Ismaël Mumpoi de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à Paul Mboula, l'éducateur.
On vous écoute.
Ok, ma première préoccupation est de savoir qu'est-ce qui peut entrer en jeu ou pourquoi la psychologie entre les deux sujets qui est tenu à éduquer ses enfants, c'est-à-dire celle doit être compulsée pour que celui-ci ne peut jamais tomber encore à l'échec de ses enfants.
Un instant, Ismaël, on n'a pas, je pas bien compris la première question. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Donc, l'éthique psychologique du parent qui est restée seule avec les enfants, pourquoi c'est nécessaire pour se demander qu'est-ce qui ne va pas, par exemple, comment il peut commencer à examiner son emploi du temps quand tu étais deux. Soit tu devais faire 4 heures à la maison, mais pourquoi il devait commencer, il doit commencer à faire, par exemple, 6 heures avec ses enfants seuls à la maison. C'est ça ce que je je voulais dire. La deuxième préoccupation était celle de savoir.
Un instant, vous dites que... un instant, pour la première question, on veut bien comprendre. Vous voulez dire que, par exemple, une dame qui est restée avec ses enfants, avant, elle passait 4 heures avec les enfants à la maison, maintenant que le mari n'est pas là, elle doit augmenter les heures, rester beaucoup plus longtemps avec les enfants, c'est ça?
Effectivement. C'est ça ce que je dis. Et la deuxième... Oui.
Oui.
La deuxième préoccupation, c'est de savoir pourquoi les enfants cueillis dans une famille monoparentale posent souvent plus de problèmes juste quand ils ne sont pas souvent contrôlés et vérifiés, et surtout quand la pauvreté entre en jeu. Et quels sont les moyens que le partenaire peut rester avec eux, peut mettre en jeu pour que les enfants soient soumis à une éducation, à une collaboration avec ses parents, et pourquoi les parents qui restent avec ses enfants doivent profondément connaître ses enfants pour que tout aille bien. Merci.
Bien, merci. Paul Mboula, Ilunga de Kolwezi, pose la question de savoir entre l'homme et la femme qui éduque mieux les enfants.
très bien, c'est une question pertinente, c'est vrai, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire le père ou de la mère éduque, assure la bonne éducation. Tous les deux sont des parents et ils portent la responsabilité d'élever leurs enfants. Et à l'alliance du mariage, on leur recommande de s'occuper de leurs enfants et de se compliquer. Pourquoi pas, non seulement moralement, mais aussi sincèrement pour arriver à bien élever leurs enfants. Donc cette question bien posée, ne trouve pas une réponse carrée. Selon que la mère ou le père est bien éduqué, on arrive à se dire que celui-là qui porte mieux l'élément d'éducation à son enfant et non pas dire que des femmes et des hommes qui éduquent bien. Mais vous savez que dans la tradition, dans la vie traditionnelle primitive, les enfants étaient plus au bas âge avec leur mère qu'avec leur père. C'est comme ça qu'on dit toujours une femme et une nation. Ça veut dire que la femme a plus de temps avec les enfants et elle est plus atout pour éduquer l'éducation des enfants.
Mmh.
Que quand cette femme n'est plus là, l'homme doit jouer et le rôle du père et le rôle de la mère. C'est-à-dire qu'il doit voir ce que porte la femme ou ce qu'elle mène dans l'éducation des enfants, pour que lui-même se comporte tantôt comme une mère, tantôt comme un père.
Voilà. Et Ismaël parle du temps. Lorsque, par exemple, une femme, son mari décède, elle reste seule avec les enfants. Et si, par exemple, elle travaille, est-ce qu'elle doit revoir son temps de travail pour rester beaucoup plus longtemps avec les enfants, pour mieux les éduquer, les surveiller?
Très bien, je dis, vous allez remarquer que les femmes ne s'absentent pas maison en dessin, parce que papa est là, bon, je peux planer en ville, je peux me promener les gens au détriment de ma famille, parce que mon mari peut avoir regagné la maison un peu plus tôt. Non, dans tous les cas, ce sont les contraintes des activités qu'on a toujours réalisées pourront imposer un certain emploi du temps à la femme ou à l'homme qui vit seul avec ses enfants. Mais dans l'élément qu'il a souligné, il faudra, on se dit d'ailleurs même avec les familles où il y a un père et une mère, il faudra que vous disposiez assez de temps pour dialoguer avec les enfants, essayer de corriger les petites erreurs, et éventuellement proposer des suggestions pour améliorer leur comportement. Donc, la question de temps s'impose bien aux parents qui sont utilisés dans les familles monoparentales que les autres. Donc, ce n'est pas seulement la fenêtre de femmes, des hommes qui utilisent dans les familles monoparentales.
Bien. Avant de répondre à sa deuxième question, on va accueillir Alidor de Lubumbashi. Bonjour.
Alidor,
bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, j'aimerais juste poser la question de savoir quel remède pouvons-nous apporter ou l'invité peut apporter à un homme qui a perdu sa femme et qu'il se retrouve dans la ville où il est seul, où il n'a pas de membre de famille. Est-ce qu'on peut conseiller à cet homme-là de garder ses enfants, puisqu'on se réalise que lorsque les enfants sont élevés par un seul parent, il y a toujours un déséquilibre auprès des enfants, puisque la complémentarité de deux est toujours nécessaire dans la vie.
Bien, merci. Rachel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup. J'ai une question à l'invité. Il y a un ami qui avait posé cette question, mais je n'ai pas bien trigé la réponse de l'invité. Quand il avait dit entre la femme et l'homme qui est né placé pour l'éducation des enfants, alors l'invité a fait des réponses. Il était en train de répondre, je n'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Si il peut me faire répéter cette question-là.
D'accord. Alors pour Mboula, Ismaël a posé une deuxième question. Il dit souvent dans une famille monoparentale, l'éducation des enfants pose problème. Alors que faut-il faire? Quelles mesures prendre pour que ces enfants soient vraiment bien éduqués?
Comme je disais tout à l'heure, si notre ami nous a suivi, nous avons dit que la première règle, c'est de ne pas paniquer et vivre naturellement avec ses enfants, d'abord en assurant leur protection, les réductions et les moyens essentiels de survie. Mais en ce qui concerne leur formation comportementale, leur formation affective, il faut savoir que l'enfant a besoin de temps en temps des moments de forte autorité, mais aussi des moments de détente. Alors, rapprochez-vous de votre enfant pour comprendre ses besoins. Même si vous êtes dans une famille à deux, l'écoute, c'est une recommandation essentielle dans le dialogue entre vous et vos enfants. Ça vous permettra de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce à quoi ils aspirent et quelles sont les difficultés qu'ils ont et dans quelle mesure vous pouvez y faire face. On n'a pas toujours le moyen de répondre à tous les besoins des enfants, mais si vous pouvez faire comprendre que vous renvoyez plus tard un problème qu'on veut résoudre, je pense que Rachel va accepter de accompagner facilement ces enfants-là sans beaucoup de fracas.
Voilà, Alidor nous dit, de Lumbashi dit, un homme qui a perdu sa femme, il reste seul avec les enfants dans un milieu où il n'a pas de parenté. Qu'est-ce qu'il peut faire pour bien s'occuper de ses enfants?
Le rôle d'éducation revient d'abord aux parents. C'est-à-dire, dans quelle que soit la vie, quelle que soit la situation, de moi, qui ai un plan, j'ai des objectifs, j'ai une vision et je voudrais que mes enfants se comportent de telle ou de telle manière. Avec ceux qui sont plus grands, je négocie. Avec les plus petits également, je les initie à accepter mon rêve, mes objectifs. Et finalement, l'école peut m'aider et les autres associations comme l'église, comme les lieux de culte peuvent aussi contribuer à renforcer ce que nous, en famille, nous donnons comme élément de base. Et la difficulté pour les gens qui vivent dans les familles monoparentales, c'est que on peut être en même temps au travail et être obligé d'aller de s'assurer que son enfant a été à l'école, s'assurer qu'il a bien fréquenté et puis après, il n'est pas parti ailleurs pour mes conduits. Mais alors, qu'est-ce qui fait gagner tout parent? C'est dès la base, accepter d'échanger avec les enfants, de se dire ce qui s'est passé avec sincérité et aller réaliser que l'enfant qui est habitué à vivre dans la vérité vous dira la vérité. Et quand un élément nouveau destructeur est entré dans ta vie, vous pouvez facilement corriger.
Bien, on va accueillir Faradja avant de répondre à Rachel. Faradja, vous êtes à Calémi, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Faradja, veuillez éteindre votre radio. Vous allez suivre la partie du téléphone. C'est fait.
Ok, j'avais une question à poser à l'invité.
Allez-y.
Bon, ici à Calémie, il y a certaines familles dont vous trouvez le parent, donc le papa et la maman sont déjà séparés. Alors, vous allez remarquer, les enfants sont tantôt chez le papa, tantôt chez la maman. Alors, parfois, on laisse les enfants à la maison. S'ils sont chez le papa, ils le retrouvent. Les enfants ne sont plus là. Ils sont partis chez la maman. Soit ils passent nuit là-bas. Et le matin, ils reviennent. Le papa est déjà au service. Donc, c'est compliqué. Je ne sais pas quel conseil que l'invité peut donner à une telle famille dont le papa et la maman se sont déjà séparés. Ils se retrouvent dans une même ville. Alors que les enfants, soit ils devraient rester avec le papa, arriver, le papa est au service, les enfants sont chez la maman, soit les enfants sont chez la maman, le papa n'est pas là, ils sont à la maison où le papa est là. Je ne sais pas ce que, je sais pas ce que l'invité peut dire à une telle famille qui se retrouve dans une situation pareille.
D'accord, merci. Paul Mboula, les parents sont séparés, soit ils divorcent, les enfants sont ballottés, parfois ils passent les week-ends chez la maman, parfois ils sont chez papa. Alors c'est vraiment une situation instable. Est-ce que cela ne va pas porter un coup dur à leur éducation?
Ok, pour ce qui concerne les parents divorcés, la règle que l'on remette les enfants, c'est le parent qui a le plus de moyens et plus d'atouts pour élever les enfants. Ça, c'est la règle. Et les parents doivent de temps en temps se rencontrer pour voir comment contribuer à leur éducation, matériellement, financièrement, mais en même temps, se décider des moments où les enfants peuvent se retrouver chez l'un ou l'autre des parents, de manière que l'on puisse bien contrôler leur mouvement. Mais accepter que le matin, ils sont chez la maman, et le soir, ils sont chez le papa, là vous êtes en train d'exposer vos enfants au mensonge. Parce que un enfant qui réalise qu'il est, il peut facilement dire à son père qu'il est chez sa mère alors qu'il est ailleurs, vous savez que le mensonge va se mêler et l'échec d'éducation va vite arriver. La règle, c'est de garder les enfants. Si vous réalisez que vous travaillez, vous êtes papa, vous travaillez, donnez à votre épouse des moyens pour garder les enfants, scolariser correctement les enfants, et de temps en temps, retrouvez-vous avec les enfants et parfois avec cette épouse pour montrer que vous ne vivez pas dans le rancœur, vous ne vivez pas votre conflit éternellement, quand le sort a été, le verdict a été donné, vous êtes divorcé, vous êtes séparé, cela ne doit pas tout détruire, particulièrement la vie de vos enfants. C'est comme ça que si les enfants sont quelque part et qu'ils réalisent que les papas ont beaucoup d'atouts, il a une formation assez élevée et il a des moyens pour garder les enfants, madame doit faire. On va concéder pour que les enfants restent chez papa. De temps en temps, papa et maman se retrouvent pour voir qu'est-ce qui a évolué et qu'il faut améliorer. Comme ça, on a beaucoup de chances de sauver les enfants.
Voilà. Alors, revenons à la question de Rachel qui n'avait pas bien saisi votre réponse à la question de savoir entre l'homme et la femme qui éduque mieux les enfants.
Qui éduque mieux les enfants, je dirais à Rachel que vous avez dit qu'il n'y a pas d'excellent éducateur entre le père et la mère. Dans la situation actuelle des choses, le père a son accord, la mère a son accord. Quand bien même traditionnellement on attribue ce rôle d'éducatrice à la femme, mais nous devons nous dire que la femme a toujours besoin de l'autorité de l'homme pour canaliser les tendances de l'enfant, le caractère de l'enfant. Mais alors, si on doit se dire, comme tout à l'heure je disais pour la famille de divorcés, si papa a assez de moyens, si papa a beaucoup étudié, si papa vit dans offre un environnement favorable à la formation et à l'éducation des enfants, pourquoi est-ce qu'il ne garderait pas les enfants au lieu de les donner à une mère qui est démunie, qui vit dans des conditions assez précaires et qui ne peuvent pas scolariser les enfants. Donc, donner plus de chances, agir pour l'intérêt de l'enfant, c'est la règle d'or, même de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Bien. Ali nous appelle de Goma, au Nord Kivu. Bonjour.
Ali. Bonjour.
On vous écoute, Ali.
Ok, je voulais parler d'une famille où le papa est protestant et la maman est témoin de Jéhovah. Alors, le papa travaille très loin de la ville, il va toujours en mission et il retourne après au moins un mois, deux mois. Mais le papa souhaitait que ses enfants puissent le suivre à l'église protestante. Mais la maman décide d'amener les enfants à l'église témoin de Jéhovah. Et le couple a décidé de se séparer. Maintenant, la maman continue à entêter les enfants pour qu'ils continuent à la suivre, chez les témoins de Jéhovah, au détriment de leur père. Alors, là, quel sera le conseil que va nous produire notre invité pour cette famille qui est en train de se disloquer comme ça?
D'accord. Alors, Lambert, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour notre invité.
Oui, veuillez éteindre votre radio Lambert, vous allez sur la partie de votre téléphone. Quand vous posez la question, veuillez vous éloigner souvent de votre poste récepteur ou fermer carrément la radio. On vous écoute Lambert.
Merci beaucoup. Je voudrais poser une question à notre invité. Ici à Kikwit, nous remarquons que la plupart des familles monoparentales où c'est le papa qui est le responsable de ses enfants, ces enfants-là sont des fois impolis à l'égard de leur maman. C'est-à-dire que quand le papa a perdu sa femme, peut-être il a à côté une maman où il va pour se soulager. Ces enfants sont souvent très, très impolis à l'égard de cette maman-là. Alors, qu'est-ce que notre invité pouvait nous parler à ce propos?
Les enfants sont impolis à l'égard de la nouvelle femme de leur papa.
Oui, oui. Très, très impolis, surtout ici à Kikwit. Et vous allez même remarquer que ces enfants-là n'ont pas même du respect à leur papa parce qu'il s'est épousé à la deuxième femme.
pas la deuxième, il a épousé une autre femme après la séparation avec la première. Merci. Paul Mboula, revenons à la question de Ali de Goma. Monsieur et une dame se sont séparés. Voilà, le papa est protestant, maman est témoin de Jéhovah. Et papa ne veut pas que les enfants aillent là-bas, que les enfants le suivent à l'église protestante. Mais la maman, alors il y a tiraillement, la maman amène toujours les enfants dans la salle du royaume des témoins de Jéhovah. Alors, dans cette situation, il demande quel conseil vous pouvez donner à cette famille, bien qu'il y a déjà séparation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas?
Oui, la question est délicate et il faut la traiter vraiment de manière... personnel, il faut vraiment creuser. Est-ce que la séparation a été vraiment justifiée par cette séparation de culte ou bien il y avait d'autres raisons qui ont fait voir à la maman que le modèle de papa n'était pas bon ou encore papa qui dit que le modèle de la maman n'était pas bon pour montrer les enfants contre leurs parents et en même temps les amener là où on croit qu'on est en train de vivre l'idéal à rêver. Parce que dès le départ, on s'est dit, on s'unit pour les meilleurs et pour les pires. Dans l'entretemps, ils savaient qu'à un moment donné, l'un fréquente l'église protestante et l'autre la congrégation des témoins de Jéhovah. Mais alors, pourquoi ils se sont mariés au départ? Que cela avait commencé dès le départ. Mais ce qui est arrivé en cours du mariage, qu'est-ce qui a amené d'autres à aller dans d'autres pays? Donc il y a là toute une problématique, je dis, que nous devons creuser pour répondre à notre ami Ali. Mais la règle, c'est que ceux qui peuvent compter le couple doivent les persuader que les enfants sont déjà sacrifiés par leur à un moment donné, ils vont manquer d'un père d'une mère, ils pourront éventuellement se révolter et peut-être pas être dans la ligne ni des témoins de Jéhovah ni des protestants, ils peuvent se retrouver ailleurs et même se rebeller contre les parents qui vont faire subir toutes les humiliations et parfois toutes les privations à cause de leur séparation. Donc, il faut vraiment creuser et les conseiller à laisser tranquille les enfants en toute liberté parce que notre convention relative aux droits de l'enfant et la loi portant protection de l'enfant dit aujourd'hui que l'enfant a aussi les libres choix de la pratique de son culte.
Alors, Paul Mboula, prenons par exemple le cas d'un homme dont la femme est décédée, il reste seul avec les enfants, ou une femme dont le mari est décédé, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de moyens, alors elle préfère envoyer un enfant soit chez son frère, un autre enfant va chez sa tante, un autre va peut-être à l'internat. Est-ce que c'est une bonne façon de procéder?
Bon, l'enfant risque de... D'emblée, on dira que ce n'est pas très bien parce que l'enfant va à la fois manquer son père et sa mère. Mais si vraiment on réalise que chez le frère, chez l'oncle, il y a un cadre plus propice à l'éducation que garder l'enfant à la maison, si c'est pour l'intérêt supérieur de l'enfant, on peut le laisser chez le frère, évoluer. Mais il trouvera là-bas de quoi vivre. Il va y trouver... cet environnement protecteur et les moyens pour étudier, mais il faut se dire l'affection va aussi en pâtir. Et quand on parle d'affection, c'est toute la vie, vous savez.
Voilà. Et Lambert de Kikwit nous dit que à Kikwit, il a remarqué lorsqu'un homme se sépare de sa femme, généralement les enfants deviennent impolis, très impolis, et surtout lorsque le papa se remarie, ils sont très impolis à l'égard de la nouvelle femme de leur père. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Lambert par rapport à cela?
Merci bien. Lambert a mille de problèmes. Si le père, la mère meurt et que le papa reste avec les enfants, je pense que tous vont partager, s'ils ont aimé leur mère et leur élu sa femme, et que le climat était bon en famille, je ne vois pas l'origine de l'impolitesse. Mais quand on parle de la famille recomposée, réconstituée, c'est-à-dire papa se remarie, alors à ce moment-là, le choc arrive. Et il dépend de la dextérité du père et de la marâtre dans la gestion de du choc. Et il faut que cette deuxième femme sache qu'elle n'est pas facile, surtout quand les enfants ont grandi, elle n'est pas toujours la bienvenue, parce qu'on va toujours la comparer à la deuxième maman. Et ça peut occasionner, si le choc est mal géré, occasionner... une méconduite, ça dit en termes d'intégrité. Et la formule, c'est que papa qui veut bien se remarier, négocie, choisisse bien la marâtre et négocie bien la gestion de cette famille reconstituée.
Voilà. Prenons pour terminer, Paul Mboula, une femme dont le mari décède, elle reste seule avec 4-5 enfants. Elle doit jouer maintenant à la fois le rôle de papa et de maman. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour arriver à jouer ces deux rôles?
Oui, elle doit d'abord continuer à bien jouer son rôle de mère, c'est-à-dire offrir ce qu'il avait toujours offert, l'affection à ses enfants, la nourriture, la protection et l'accompagnement qu'il faisait en termes d'éducation scolaire. Il doit continuer à le faire avec tout peu de moyens. Elle doit maintenant se battre pour accroître les moyens pour arriver à subvenir aux besoins de la famille parce que l'héritage n'est pas suffisant pour y faire face. En même temps, il doit recourir également à l'aide que lui offre la communauté, notamment les amis, les parents et éventuellement les services psychosociaux qui pouvaient éventuellement l'aider à corriger parfois certains de leurs dérapages et à certains moments revoir ce qu'il a toujours fait, est-ce que c'est favorable à l'éducation ou non de ses.
Bien, Paul Mboula, éducateur à la vie, nous vous disons merci et bonne journée.
C'est moi qui dois vous dire merci.